Retour à questions d'actualité sur les ondes de la radio VM. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. C'est le moment de revenir sur les moments forts de la semaine politique québécoise et canadienne, une fois par semaine, les mercredis à 12h30, enfin 12h40. Voilà, là au menu, la réforme Joly sur la défense du français. Ensuite, on reste avec le français, avec le statisticien Charles Castonguay qui sonne l'alarme. Ensuite, la crise du popcorn, sujet très sérieux. Et Danny Turcotte quitte, tout le monde en parle. Je parle de tout cela avec Nick Payne, analyste politique. Bonjour Nick.
Bonjour Jean-Philippe.
Alors, êtes-vous content de ce qui se passe à Ottawa? Finalement, on accepte de... Finalement, le principe de l'asymétrie des deux langues officielles du pays.
Oui, la symétrie dans le soin qu'on doit apporter à chacune d'entre elles, si on veut. Donc, on accepte dans les principes, désormais, à travers le livre blanc donc de la ministre Joly, parce que, j'ouvre une parenthèse, la réforme n'est pas faite. Il n'y a même pas de projet de loi sur la table, et on va y revenir dans un instant. Mais là, c'est un livre blanc, donc c'est un énoncé de principe qui nous montre que le gouvernement fédéral admet désormais que c'est le français qui est à protéger au Canada davantage que l'anglais, et ça devrait aller de soi pour tout le monde, mais ça n'allait pas de soi du tout jusqu'à maintenant au Canada, et ça ne va pas nécessairement de soi non plus dans la grande population et au Québec non plus. Vous avez vu les Marlene Jennings, là, la représentante communautaire des Anglo-Québécois, qui n'est pas du tout d'accord avec ce principe. Eux tiennent beaucoup à l'idée que les Anglo-Québécois sont aussi mal pris que les Franco-Canadiens, ce qui est parfaitement...
Évidemment, ils n'ont que trois universités, qu'un système hospitalier, les universités en grande partie financées par vos dollars et mes dollars. C'est vrai que c'est peu, hein?
Ouais, ça va pas bien.
C'est minable, hein? C'est absolument minable. Mais le fédéral veut également sonner l'alarme sur le français au Québec. Là, ça peut être réconfortant, mais c'est aussi humiliant pour les Québécois de se faire dire par le fédéral que ça va mal chez nous également.
Ah, vous êtes le premier que j'entends dans les médias dire une telle chose, et pourtant c'est ce que je pense moi aussi. C'est-à-dire que c'est un peu.
J'en ai même pas capable soi-même de faire le ménage.
Non, c'est ça. Bon, évidemment, on n'est pas nécessairement dans un système qui nous le permet, mais c'est autre chose. Mais néanmoins, de se faire dire par Ottawa, c'est vrai, vous êtes en déclin, et ça donne froid dans le dos, parce que à ce jour dans l'histoire du Canada, quand Ottawa s'occupe d'une communauté en déclin ou en minorisée et maltraitée, ça ne s'améliore. Les choses ne s'améliorent pas pour elle. D'habitude, c'est parce que la cause est pratiquement perdue d'avance, je pense.
Et donc Ottawa peut montrer sa noblesse quand il n'y a plus de risque que la cause lui pète en pleine face.
Je pense aux Premières Nations, bien sûr, et à toutes les excuses larmoyantes de M. Trudeau dans des dossiers où il n'y a rien à perdre, finalement. Mais,
effectivement.
Bon, alors, est-ce qu'on en est rendu là avec le français au Québec? C'est un peu inquiétant, effectivement, de voir qu'Ottawa... Désormais, vous avez vu, les conservateurs, les libéraux et les bloquistes rivalisent de volonté de mieux défendre le français. C'est tout à fait inédit comme situation. Mais revenons un instant à la proposition de Mme Joly. C'est donc un livre blanc. Je vais faire une confidence, Jean-Philippe. Je connais des gens qui ont participé à la réflexion entourant la rédaction de ce livre blanc. Ce sont des gens pleins de bonnes intentions qui ont effectivement réussi, je pense, qui ont dû participer à ce changement de paradigme-là, la fin de la symétrie et la reconnaissance du fait que ça va plus mal pour le français que pour l'anglais. Mais, Jean-Philippe, ce qui se produit dans ce dossier-là, c'est que la barre est tellement basse, les attentes sont tellement basses qu'on a l'impression d'un immense progrès alors qu'on ne fait que reconnaître du bout des lèvres une réalité qui existe depuis des décennies, voire des siècles à travers ce livre-là. Et par ailleurs, on va se dire franchement, c'est terminé pour les communautés francophones au Canada.
Nick Payne, je vous interromps, mais eux, il y a des grenailles pour eux, non?
Ah oui, ils sont très contents, comme souvent lorsqu'Ottawa donne un petit peu, justement, quelques miettes comme ça. Je ne veux pas jouer le rôle de Denise Bombardier ici. Vous vous souvenez qu'elle a fait à peu près ça.
Tout à fait.
On en parle il y a quelques mois. Elle s'est fait, évidemment, vertement sermonner, mais pourtant, c'est...
Il y a avec raison.
La démographie, il existe une telle chose que la démographie, que le pouvoir politique ou le non-pouvoir politique, et en ces matières, au Canada, pour les francophones, ce n'est pas un livre blanc ou une réforme de la loi sur les langues officielles prenant la perspective des droits individuels. Hein,
c'est ce que... quand même, Nick Payne, excusez-moi, mais au Québec, il y a aussi un sacré mépris pour tout ce qui est hors du Québec. Je veux dire, dès qu'il y a une francophonie menacée, la plupart des Québécois ne veulent rien savoir parce que ça leur envoie une image de leur propre faiblesse. Ce qui m'amène au deuxième sujet de Charles Castonguay, qui lui aussi sonne l'alarme, mais à l'intérieur de la maison même.
Oui, en effet. Alors, Charles Castonguay, après un autre chercheur, Frédéric Lacroix, qui publiait récemment le livre intitulé « Pourquoi la loi 101 est un échec », Charles Castonguay, lui, c'est un cas fort intéressant. C'est un... On l'appelle mathématicien de la langue, hein, donc c'est un démographe aussi. Il a, dans le passé, publié d'autres ouvrages et émis d'autres avis très percutants. Il est... Cet homme a un accent anglais. Il est d'une mère anglophone et d'un père francophone, ou l'inverse, là, je m'excuse si je décris mal. Ah, voyez-vous, mais vous n'avez pas d'accent, il en a un.
Je vais le prendre, si vous voulez.
Oui, voilà, vous, c'est l'accent, c'est autre chose, c'est une question de classe sociale.
Pardonnez-moi.
Distingué, noble. Mais donc, Charles Castonguay dit essentiellement que le français est en chute libre. Au Québec, il parle d'une baisse du poids des francophones jamais vue, autant dans son ampleur que dans la rapidité du phénomène. Nous en sommes pour la première fois sous la barre des 80% au Québec. Il amène des chiffres comme par exemple celui-ci qui est fort intéressant et inquiétant, c'est le fait que 6%, c'est pas beaucoup, hein, 6%, mais 6% des jeunes francophones à Montréal, ceux qui sont nés, qui sont de langue maternelle française, opèrent un transfert vers l'anglais comme langue quotidienne. Ça, c'est la prochaine génération. Alors, ça va vite. Ça, pour des démographes, des chiffres de cet ordre-là annoncent un glissement accéléré. Alors, ce qui est intéressant, alors évidemment, on pourra débattre, contester les guerres de chiffres, on n'en sort plus, on n'en finit plus.
Mais est-ce qu'il y a des correctifs?
J'allais vous dire que les ouvrages de Lacroix et maintenant de Castonguay, puis les prises de position de plus en plus marquées de gens comme le chef du Parti québécois, par exemple, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui était autrefois très modéré sur ces questions, qui est aujourd'hui un ardent promoteur d'un virage radical et rapide dans ce dossier-là, qui passerait par l'indépendance. Et face à ça, l'establishment souverainiste et nationaliste, dont fait encore partie François Legault, même s'il n'est plus formellement souverainiste, mais je pense aussi à des gens comme les ténors du Parti québécois, Jean-François Lisée, Gilles Duceppe, après avoir passé 25 ans, grosso modo, à dire la langue, dans le dossier de la langue, on a atteint une sorte d'équilibre précaire, certes, mais une paix linguistique qu'il convient de protéger en agissant pas, en fait, hein, dans ce dossier-là. Il change d'idée désormais. Vous avez entendu cette semaine Gilles Duceppe se rallier à l'idée de l'application de la Charte de la langue française au cégep, au collégial. Donc, c'est du jamais vu, ça. Et Jean-François Lisée, qui, lui, il y a quelques années à peine, prônait les cégeps bilingues, imaginez, il a complètement changé son fusil d'épaule en suggérant qu'on francise sur une période de 10 ans les cégeps anglophones au Québec pour les amener à 100% francophones. C'est tout à fait radical comme position, ça aussi. Alors, on sent un mouvement là, dans la famille souverainiste, à tout le moins, à ce sujet-là.
Nick Payne, il y a un très beau livre qui a été écrit il y a 2500 ans ou 2000 ans, le Tao Te Ching de Lao Tzu, qui est le livre fondateur du taoïsme, et il est dit là-dedans une formule assez sibylline. On dirige un grand État comme on frit un petit poisson, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de faire de révolution, mais on gère un État, et puis peu à peu, on pousse un petit poisson, le petit poisson à droite ou à gauche, pour ne pas le déchiqueter, pour ne pas le briser. J'ai l'impression, dans vos propos, que vous dénoncez une mollesse québécoise, au niveau politique, mais également au niveau populaire, parce que les gens se foutaient perdument de la défense de leur propre langue. Ils passent à l'anglais avec une allègrement à la moindre occasion. Les politiciens ont voulu maintenir une paix linguistique, mais au lieu de frire le petit poisson, de tasser un peu à droite, un petit peu à gauche, de faire attention, on a laissé les choses partir en brioche.
Oui, ben, c'est-à-dire que les Québécois sont pleins de paradoxes à cet égard. Un peu de la même
ou
façon
paresse.
Que les Français, par exemple, se méfient beaucoup, sont très critiques à l'endroit de l'Amérique anglaise. En même temps, ils sont complètement fascinés par elle et anglophiles au dernier degré. Les Québécois, si vous les brusquez, si vous les mettez face à une rebuffade, un échec, une insulte ou que sais-je à propos de leur identité ou de leur langue, là, ils se lèvent et protestent tout de même assez fort.
Maintenant, mais ils réagissent, ils n'agissent pas.
Oui, ben,
en cette matière, en tout cas.
Oui, c'est ça. Et sur le long terme, Sophie Durocher, aujourd'hui ou hier, a publié un texte sur un festival, je ne sais où, au Québec, qui s'appelle la Cheese Week. Ah oui, c'est à Québec, imaginez. Mm-hmm. Il y a eu la Érable Week il n'y a pas si longtemps. Alors, on est très, en même temps, anglophile et préoccupé par l'idée de bien parler anglais, d'apprendre anglais le plus possible, mais parfois, cet instinct... j'allais dire flirt, vous voyez, j'emploie moi-même un mot anglais.
Non, ça vient du français, ça veut dire compter fleurette. Flirter, ça vient de compter fleurette.
Alors voilà, nous fleurettons avec une espèce de volonté de disparaître, parfois de se fondre dans le monde à tel point que nous n'existerons plus. Alors, où trouver si juste au milieu dans ça? Je pense que les politiciens peuvent agir, en tout cas, davantage qu'ils ne pensent pouvoir le faire.
Oui, et que vous et moi, que tout le monde dans la rue, quotidiennement, peut également agir à sa propre échelle. M'en voudrez-vous si je parle de popcorn ou maïs soufflé?
Non, allez-y. Le pop soufflé, le maïs corn...
Allons pour le maïs corn et la COVID. Il y a toute une histoire là-dessus dans les cinémas.
En effet, je ne sais pas si vous êtes de ceux pour qui le popcorn, le maïs soufflé est indissociable de deux bonnes heures passées au cinéma. J'ai toujours attiré par cette odeur. C'est un peu comme lorsque vous marchez sur la rue près d'un McDo et vous avez la bonne odeur de gras et de sel qui vient vous chatouiller. Mais en même temps, quand on sait ce qu'il y a vraiment dans le restaurant, on n'y va pas plus que ça. Pardon, c'est de la mauvaise humilité. J'espère que c'est pas une de nos annonceurs.
Non, on vous le pardonne quand même.
Ah bon, parfait. Mais donc... un peu pareil au cinéma, ça sent bon ce popcorn, mais lorsque vous y goûtez avec cette espèce de beurre de synthèse un peu douteux qui traverse le sac, qui vous mouille les pantalons, c'est un peu moyen. Mais bon, bref.
Mais alors, pourquoi monter ça en mayonnaise, si j'ose dire? On est en pleine crise, on devrait quand même se dire le maïs soufflé, c'est un peu secondaire, même si les cinémas font beaucoup d'argent avec ça.
Oui, on a tous compris. Bon, alors on a appris une chose, pour ceux qui ne le savaient pas, cinémas font leur argent avec les produits dérivés, les produits secondaires, les gadgets, les machins. Alors, on s'en doutait, quand ça coûte 14$ pour un sac de popcorn, on comprend que, j'exagère à peine, là,
c'est juteux.
On comprend que c'est très payant pour eux et qu'ils en ont, qui ont véritablement besoin de ça pour survivre. Mais c'est que cet épisode, donc rappelons pour nos auditeurs, c'est le propriétaire de salle de cinéma, Vincent Guzzo, qui s'est plaint que le gouvernement proposait d'ouvrir les cinémas sans ouvrir le volet restauration des cinémas. Ça en fait l'affaire de tous ceux qui ont envie de critiquer le gouvernement et qui ne savent trop par où s'y prendre. Vous avez la gauche bien-pensante qui s'est empressée de dire « Ah, vous voyez, ce gouvernement qui place le profit, l'économie, les affairistes, ses copains de la business au-dessus de l'intérêt collectif en proposant d'aider financièrement M. Guzzo pour survivre sans popcorn. » Et vous avez aussi... les autres, pas nécessairement à gauche, qui disent, bon, encore une décision incohérente, pourquoi les cinémas, pourquoi pas les restos, pourquoi pas ceci, cela, le
cinéma. Mais Nick, pardonnez-moi, mais là, j'ai l'impression qu'on ergote autour d'un sac de maïs soufflé. Oui, il y a une crise, il y a une pandémie. Je veux dire, est-ce qu'on peut avoir le sens des proportions?
Alors, est-ce que la question que vous posez, très justement, c'est sommes-nous À la hauteur, en fait. Sommes-nous capables de composer avec cet événement tout à fait inusité et inédit? Forcé d'admettre que peut-être pas toujours. Hein? On a beaucoup de difficultés à sortir des cadres. On en a déjà parlé, vous et moi, pardon, de me répéter, des cadres idéologiques habituels, alors qu'on est dans une espèce de, d'effort là, qui dépasse complètement la question des idéologies et de la gestion. Alors, je comprends qu'on veuille avoir à l'œil le travail du gouvernement, comme toujours, mais enfin, franchement, là, s'énerver pour le popcorn, c'était un peu... ça dit quelque chose aussi de notre... Enfin, nos réactions, en général, à la pandémie disent quelque chose sur l'individualisme dans notre société,
Tout à fait.
L'instantanéité, le consumérisme, le besoin de bouger toujours et de consommer et d'agir.
Mais toujours sous la protection du gouvernement. Parce qu'on est prompt à blâmer le gouvernement, mais on veut être autonome en même temps. Donc, ça a l'air plus insignifiant qu'autre chose. Diriez-vous la même chose pour la dernière nouvelle qu'on va traiter là, en 4 minutes? Dany Turcotte dit au revoir à Tout le monde en parle pour un tweet ou une question qui a dérangé beaucoup de monde.
Oui, et dès le départ de monsieur, dès l'annonce du départ de monsieur Turcotte, tout le monde en a parlé. À tel point que moi, j'aurais cru qu'on l'inviterait pour la prochaine émission.
Mais en tant qu'invité, non pas comme fou du roi.
Ça aurait tout à fait cadré dans le mandat d'origine qui était d'inviter les gens qui font parler d'eux. Alors, Dany Turcotte, qui, en recevant monsieur Camara, cette pauvre victime d'une invraisemblable erreur policière, pas policière, il y a quelques semaines, a voulu jouer son rôle de fou du roi pendant l'entrevue avec M. Camara. Il lui a demandé « Désormais, allez-vous continuer de parler au téléphone au volant ?» Évidemment, c'était comique, coquin, avec un sourire en face, parce que M. Camara avait été arrêté, semble-t-il, pour utilisation de son cellulaire au volant, ce qu'il a démenti, par ailleurs. Mais... la blague est un peu tombée à plat et ça n'est pas allé très loin, mais par la suite, sur les réseaux sociaux, vous avez Will Prosper qui était sur le plateau, qui a dénoncé cette blague de Dany Turcotte. C'est épouvantable, il aurait dû parler de la misère de ceci et de cela. Bon, vous voyez un peu, enfin, c'était la morale habituelle. Vous avez, c'est ça, toute une certaine encore là. Certaines gauches, là, il faut le dire, les inclusifs, les diversitaires et autres qui se sont jetés sur M. Turcotte comme la misère sur le pauvre monde ou sur le bas clergé, disait-on.
Autrefois. La vérole, oui.
Et donc, bref, alors Turcotte semble être un autre dommage collatéral de la nouvelle... époque de rectitude assez sévère là et de bien-pensance. Mais vous savez, Jean-Philippe, moi, ce que je me suis dit, c'est s'il fallait que Guillaume Lepage et Dany Turcotte soient ne serait-ce qu'à moitié fidèles au concept d'origine et aux manières, aux habitudes de Thierry Ardisson, le concepteur de l'opposition, il y a longtemps qu'elle aurait été retirée des ondes et que tout le monde aurait démissionné 50 fois plutôt qu'une. Hein? Alors là, c'était vraiment...
Et diriez-vous que, est-ce que vous dites en filigrane que les Québécois sont mous dans ces réactions-là et puis ils plient les chines trop facilement?
Ah, il ne faut pas se tromper, hein? C'est la vaste majorité de la population aujourd'hui trouve ridicule cette convention à condamner, à envoyer sur le bûcher quiconque ne pense pas correctement à tout bout de champ. Mais la petite minorité qui arrive à avoir la tête comme ça de gens comme lui, est très agissante, très très pesante. J'ai lu le commentaire d'une représentante, dont j'oublie le nom malheureusement, de cette mouvance woke dont nous parlons souvent, qui disait à peu près ceci, elle disait « Franchement, là, en 2021, une piètre performance comme celle-là n'a pas sa place, surtout pour quelqu'un qui a fait sa renommée dans les années 90. Allez, oust, débarrasser. Hein? » C'était vraiment le besoin de jeter les vieux dehors et d'amener les jeunes qui sont moralement plus vertueux.
Il nous reste 30 secondes, Nick Payne. Pensez-vous pas qu'à force de terroriser moralement une population générale, terroriser dans le sens moral, hein, vraiment, cette minorité ne risque pas de provoquer un ras-le-bol, la majorité silencieuse va dire « ça suffit maintenant, à vous de faire oust de partir ». Mais, ou de vous taire, en tout cas, ou de mettre de l'eau dans votre vin, ou de vous modérer.
Oui, ces mouvements-là sont un balancier, en fait. Hein? Alors, vous avez eu les 68 heures qui sont arrivés, des petits bourgeois.
En 10 secondes.
En disant, dehors la vieille génération, vous êtes crispés, constipés, le reste, et 50 ans plus tard, vous avez des nouveaux petits bourgeois de gauche qui disent, vous êtes des dépravés dehors.
Nick Payne, je dois vous dire, oust, c'est la fin de l'émission.
Allez, ça me fait plaisir.
Au revoir, Nick. C'est la fin de l'émission. Donc, demain, propos sur le carême et les élections législatives catalanes. Ici Jean-Philippe Sortier, je vous dis à demain.